Christina, déplacée de Zaporizhzhia, elle est venue en France avec Danilo, son fils de 6 ans, et enceinte de 4 mois. Avant la guerre, Christina travaillait pour une grande compagnie comme ingénieure, spécialisée dans les réseaux de chauffage. Comme beaucoup de gens en Ukraine, elle exerçait un deuxième métier en parallèle, en l'occurrence, agente immobilier. Son mari était grutier. Passionné d'automobile, il avait également une seconde activité, une micro-entreprise d'entretien et de réparation mécanique.
Le début de l'histoire, c'est que la guerre a commencé le 24 février 2022. Mais on pensait que c'était des fake news. C'était la panique. Des gens ont commencé à vider les étals des supermarchés. Tout le monde a commencé à retirer de l'argent liquide et tous les distributeurs ont commencé à être bloqués. Avec mon mari, on a acheté tout ce qu'on pouvait. On a suivi le vent de panique. On regardait les infos. C'était un marathon 24-24 chaque jour. On suivait tout ce qui se passait. On a appris qu'une partie de l'oblast de Zaporizhzhia était occupée par les Russes. On a essayé de s'abriter, comme c'était recommandé, selon la règle de 2 murs. Mes parents dormaient dans le couloir. Mon mari et moi dormions dans la salle de bain, par terre, près de Danilo, qui dormait dans une vieille baignoire en fonte, loin des fenêtres et des éclats de verre potentiellement meurtriers. Mon mari a été appelé sous les drapeaux dès le lendemain, parce qu'il était réserviste de la garde nationale. Je ne voulais pas qu'il parte à la guerre, parce que j'étais enceinte. Je n'avais aucune garantie qu'il reviendrait. Lui m'a dit qu'il était obligé, que c'était son devoir. Nous nous sommes disputés, et il est parti presque en claquant la porte. Les réservistes sont responsables de la protection des lieux stratégiques, donc il aurait dû rester dans la ville. Pourtant, il a été envoyé directement au front, sur le champ de bataille. Pendant un mois, il a pu me téléphoner une fois par jour. Mais ça durait vraiment 2-3 secondes, juste pour dire « Je suis sain et sauf, je suis en vie ». Puis ça coupait. Il y a eu des moments difficiles. Comme cette fois où il n'a pas appelé 3 jours d'affilée et que je ne savais pas ce qui se passait. Mais un de ses amis, soldat aussi, a appelé et a dit qu'il avait juste un problème de téléphone. Avec mon fils et mon enfant à venir, on a commencé à vivre dans la salle de bain, auprès du seul lieu qui paraissait sûr, la baignoire. On y a dormi, mangé, passé tout notre temps. J'ai remarqué que Danilo s'est mis fortement à bégayer à cause du stress, de la panique constante. Et il s'est arraché tous les cils, en haut et en bas. Ça a duré 2 semaines. On a commencé à entendre les bombardements dans notre ville. Dans tout l'oblast, c'était la même chose. Une bombe est tombée sur la caserne de mon mari, là où des soldats laissent leurs effets personnels avant de partir sur le front. Heureusement, il n'était pas sur place. Mon mari a fait une blague. Il a dit « C'est dommage, tout est perdu. Même mes bottes en cuir que j'ai à peine eu le temps de porter. » Depuis le début de la guerre, j'étais également en contact avec ma grand-mère, qui vit dans l'oblast de Louhansk. Elle nous a dit « Fuyez, mes enfants, fuyez. Vous n'imaginez pas ce qui se passe ici. Les militaires russes ne considèrent pas les civils comme des êtres humains. S'ils n'aiment pas quelque chose, ils tirent dessus. Ils tirent sur les piétons, sur des gens qui passent à vélo. Des enfants sont enlevés par les occupants. Des militaires sont pris en otage. Et quand ils reviennent, même les plus grands, les plus forts, sont devenus maigres. Ils ont subi des choses inhumaines. Je pense que c'est ce qui m'a décidé à partir, à fuir. Parce que j'avais un enfant et que j'étais enceinte, il fallait que je parte. Mais j'avais besoin que quelqu'un m'accompagne parce que c'était difficile pour une femme enceinte de partir toute seule avec des bagages. On en a discuté au téléphone avec mon mari, on était d'accord. Il a réussi à trouver quelqu'un pour m'accompagner, la femme d'un ami, un soldat qui était sur le front avec lui. Toutes les deux, on s'est rendus à la gare, mais les trains d'évacuation ce jour-là étaient tous annulés. On est resté dormir chez les parents de cette femme, cette amie. Très tôt, à 6 heures du matin, après la fin du couvre-feu, nous avons pu retourner à la gare. Mais il y avait déjà beaucoup d'attentes. J'avais le numéro 107 dans la file pour l'évacuation. Avant ce jour, je n'avais jamais songé à prendre le train. Tous les gens qui venaient de villes où il y avait des batailles ou qui venaient de villes occupées ont commencé à arriver à Zaporijjia. Ils étaient placés un peu partout, dans les écoles notamment, pour être transférés en Transcarpathie, dans l'ouest de l'Ukraine. À la gare, c'était la panique. Les gens se poussaient. Des personnes tombaient sous les trains. Il y avait des morts. J'avais peur de tomber moi aussi et que personne ne m'aide. Mais à partir du 6 mars, la police a organisé les évacuations pour prévenir d'autres accidents. Le voyage en train a duré plus de 48 heures. C'était un train Zaporijjia-Chelm, un train direct qui reliait l'Ukraine à la Pologne. Il y avait trop de monde, tellement qu'il fallait choisir. On nous disait « soit vous prenez vos affaires et votre nourriture, soit on prend quelqu'un en plus ». Pour permettre à d'autres de monter à bord, il fallait se priver. Dès le deuxième jour, il n'y avait plus rien à manger et plus de chauffage dans les wagons. Heureusement, dans l'ouest de l'Ukraine, à chaque arrêt, chaque gare, il y avait des villageois qui nous apportaient de l'eau, du pain, de la nourriture pour les enfants, de la soupe, du cacao. Grâce à eux, on a pu tenir. Il y avait du monde partout, assis, debout, y compris dans le couloir. Notre compartiment était le moins occupé. On était 10, dont 4 enfants. J'étais la moins serrée parce que j'ai dit que j'étais enceinte. Et je sais que c'était le compartiment le moins occupé parce que j'ai aidé à partager du pain et des galettes. Et j'ai vu qu'il y avait parfois 18 personnes par compartiment. Quand nous sommes arrivés, enfin, en Pologne, nous avons été super bien accueillis. Les Polonais ont tout de suite enregistré les gens et ils ont donné un jouet à chaque enfant. Danilo garde précieusement le sien depuis. Ensuite, ils nous ont demandé ce qu'on voulait faire, où est-ce qu'on voulait aller. Je ne pouvais pas répondre. Je voyais des militaires polonais et je pensais à mon mari. J'ai pleuré si fort, je ne pouvais pas répondre. Alors, c'est l'amie qui m'accompagnait qui a décidé. Elle connaissait du monde en France, près de Rennes. On est allé à Varsovie, puis à Cologne, et enfin à Paris. C'était dur, mais il y avait des points d'aide. On nous distribuait à manger. Danilo était très content parce qu'il y avait du pain et du Nutella. Mais moi, j'étais toujours angoissé. Des agents de la SNCF ont essayé de me rassurer en me disant qu'ici, il n'y avait pas de danger. Mais dans mes pensées, j'étais toujours en Ukraine. Nous sommes finalement arrivés dans un petit village près de Rennes, chez les connaissances de mon ami. On n'avait rien du tout, pas de vêtements pour se changer. Quand on est parti d'Ukraine, il faisait moins 10 degrés. En Bretagne, il faisait 15 degrés de plus. J'étais très inquiète à propos de l'argent, je n'en avais plus beaucoup sur ma carte, parce qu'avec la panique, comme tout le monde en Ukraine, j'avais retiré mon argent, des khinyas, et ici, on ne pouvait rien acheter avec cette monnaie. Mais nous avons reçu beaucoup d'aide. Des gens nous ont donné des vêtements de saison. Très vite, au bout de quelques jours, les enfants, Danilo et la fille de mon ami, ont pu aller à l'école. Avec l'aide de notre famille d'accueil, nous avons pu faire les démarches administratives à la préfecture. Mon ami et moi, nous étions toujours en contact avec nos maris. Le mien était à côté de Zaporijjia et le sien dans la région de Donetsk. Mon mari me disait « Tout va bien ». Je ne savais pas si c'était vrai. Le mari de mon ami, lui, était très pessimiste. Au téléphone, il lui disait « C'est la fin, je serai mort demain ». On n'avait pas du tout les mêmes nouvelles, elle et moi. Ça a créé des tensions. Elle me disait, « Comment c'est possible que tout aille bien pour ton mari, alors que le mien va mourir demain ?» Je regrette qu'à cause de cette situation, notre relation se soit dégradée. Fin mars, pour la première fois, j'ai eu une conversation sérieuse avec mon mari. Il m'a dit, « Pendant 2 semaines, on a été encerclés par les occupants. On a dormi par terre. On s'est chauffé en se serrant les uns contre les autres. Après, on pouvait dormir à tour de rôle, dans une étable. Quelqu'un a ramené de l'eau pour se laver, mais il n'y avait que 5 litres par personne. On était trop nombreux. Et pour tout ravitaillement, il y avait un bus qui ramenait des cigarettes et des pommes. » Mon mari ne fume pas. Pendant 2 semaines, il a tenu avec des pommes. Il a dit, « Je ne sais pas ce qui va se passer. Oublie l'idée de rentrer bientôt. » Je me suis rendu compte, et c'était entendu avec la famille d'accueil, que je devais chercher un hébergement à plus long terme. Il fallait que je déménage. Tout ce temps en France, on regardait les actualités. On a vu que notre oblast était rasé de la surface de la terre. Et l'oblast de Donetsk était rasé de la surface de la terre. Des villes entières ont disparu. Maintenant, c'est mon 5e déménagement en France, mon 6e logement. Danilo a changé 3 fois d'école. Et maintenant, j'espère que cette 3e école sera la bonne. Je voudrais dire merci pour toute l'aide que j'ai reçue. Les personnes de la Croix-Rouge qui m'ont aidé, les médecins et les psychologues qui se sont occupés des enfants. Je suis reconnaissante pour tout cela. Mais je voudrais revenir le plus vite possible en Ukraine, rentrer chez moi, retrouver mon mari. C'est si difficile d'être seule sans lui. Je raconte ce qui me vient en tête. Il y a plusieurs épisodes que j'ai oubliés qui sont comme des cauchemars. Maintenant, quand j'y repense, je me dis que c'était terrible. On ne dormait jamais. Lorsqu'on quittait la salle de bain et la baignoire, c'était pour descendre au sous-sol pendant les bombardements. Le sous-sol n'était pas un bon abri. Si une bombe tombait ici, on aurait été enseveli. Avec nos voisins, on a construit un passage reliant nos maisons. On a cassé un mur pour avoir une deuxième issue et on a commencé à ramener du matériel, des outils métalliques pour creuser en cas d'éboulement et des couvertures, parce qu'on dormait souvent là à cause des alarmes à répétition. Chez nous, les portes se fermaient avec l'électricité, il fallait badger. Mais il y avait toujours des coupures d'électricité. Et un jour, quelqu'un en a profité pour voler tous les outils pour le métal. Comme on ne pouvait plus fermer les portes à cause des coupures d'électricité, si les Russes entraient dans la ville, comment on pourrait cacher les enfants, les femmes ? Alors on a commencé à faire des verrous de portes à l'ancienne, comme au Moyen-Âge. C'était inimaginable. Une autre chose qui a été décisive pour moi, c'est quand la centrale nucléaire a été prise par les Russes. J'ai pensé, et tout le monde pensait, qu'il y aurait peut-être des actions terroristes de la part des occupants et qu'il fallait partir avant une catastrophe nucléaire. Tous ces épisodes, je suis contente de les oublier comme des cauchemars et des souvenirs. Ça, j'en ai plein. Ici, j'ai donné la vie à un second enfant, Léon. Il porte le prénom d'un copain de classe français de Danilo. Quand on me demande comment se passe une naissance en France, je réponds que c'est divin. Le suivi de grossesse était super. Tout le monde m'écoutait. Leïla, une bénévole traductrice, m'a amenée à l'hôpital pour accoucher. Elle devait partir en vacances à cette période, mais elle a changé ses billets pour être avec moi jusqu'à ce que le bébé soit né. Et l'accouchement s'est très bien passé. Dès le lendemain, je marchais partout avec mon enfant, dans les couloirs de la maternité. Un enfant qui ne connaît son père qu'à travers l'écran d'un téléphone. Pour soutenir mon mari et ses amis sur le front, j'ai organisé le tricotage de chaussettes chaudes. J'ai acheté des cagoules, des t-shirts et de la nourriture. Et avec ce que j'en vois, ils ont de la viande avec leurs pommes de terre. Moi, je n'ai aucune raison de me plaindre, tout va bien. Sauf que je n'ai pas mon mari avec moi. l'ami qui m'avait accompagné jusqu'en Bretagne, est finalement rentré en Ukraine. Son mari a été transféré du front vers un endroit moins exposé. Elle est rentrée pour être plus proche de lui, le voir pendant ses permissions. Ici, je vis avec en tête nos projets et notre future maison. Un an avant la guerre, on a acheté un terrain pour construire une maison. On a posé les fondations, elles sont très solides. La vie était belle, on ne manquait de rien. Nous n'avons jamais eu l'idée de faire du tourisme en Europe. Pas avant d'avoir fini la toiture et mis des fenêtres à notre maison. En janvier, on a acheté des armatures pour construire les murs. Et en février, la vie est séparée en deux parties, avant et après la guerre. Juste avant, j'étais en train de préparer la documentation pour raccorder notre future maison au réseau d'eau et d'électricité, pour pouvoir vivre ici, chez nous. Puis la guerre et tout s'arrête. On n'a pas abandonné notre projet, mais tout s'est arrêté. Mon mari a eu quelques jours de permission. Il est venu travailler sur le chantier de la maison. Il m'a dit « Tu sais, je pense qu'il faut avoir un très bon sous-sol. Il faut y faire un bunker. » Si la guerre recommence en Ukraine, dans quelques décennies, nos petits-enfants nous diront « Merci pour cet abri. » Il a payé des gens pour faire un trou et il a installé des profils pour construire un bunker. Voilà, voilà l'histoire. C'est la guerre. On n'a pas de maison, mais on a un bunker. Témoignage recueilli le 2 décembre 2023.
Traduit par Maxime Loginov.